Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Planète Business. À l'approche du prochain G20, les questions d'énergie, de transition climatique et de responsabilité sociétale des entreprises s'imposent au cœur des débats internationaux. Quelle place pour l'Afrique dans cette nouvelle géopolitique énergétique? Comment concilier développement, souveraineté énergétique et exigences environnementales? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Amine Bennouna, il est spécialiste de l'énergie. Merci encore M. Bennouna d'avoir répondu à cette invitation.
Merci beaucoup pour votre invitation, Abubakar.
Alors, comme vous le savez, en perspective du G20, l'Afrique doit-elle privilégier le gaz naturel comme énergie de transition ou accélérer directement vers les renouvelables, malgré bien évidemment les contraintes industrielles et financières?
D'abord, l'Afrique, il y a 50 pays d'Afrique, donc les situations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les situations sont complètement différentes. Mais il n'empêche que il y a effectivement, globalement, dans l'Afrique subsaharienne, il y a un problème déjà de réseau qui ne va pas partout. Et donc le réseau électrique, c'est déjà un premier problème parce que c'est le réseau électrique qui est difficile à faire faire par des opérateurs privés et qui est une infrastructure que des États doivent prendre en charge. Et malheureusement, des États n'ont pas toujours les moyens de ces investissements lourds et qui sont, d'un temps de retour sur investissement assez long.
Et au cours aussi de vos différentes analyses, chroniques entre autres, la perception énergétique en Afrique, notamment au Maroc, est toujours mise en exergue. Aujourd'hui, comment, selon vous, financer durablement l'accès universel à l'électricité en Afrique, de manière générale, sans alourdir davantage la dette des États?
Alors, l'accès à l'électricité, plus exactement, j'ai déjà ébréché le problème en parlant du réseau, mais il n'y a pas que le réseau, il y a aussi la production d'électricité. On a la chance aujourd'hui que les renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, pour ne pas les nommer, le solaire, il est partout, l'éolien existe quand même suffisamment d'endroits, est devenu le moyen de moins cher de produire l'électricité. Et donc, le plus difficile et le plus lourd pour les États, je le redis, c'est encore et toujours, c'est le réseau. Voilà. Parce que la production, on peut toujours, comme ça a été le cas au Maroc, trouver des solutions win-win dans le cadre de partenariats publics-privés et faire financer dans le cadre d'appels d'offres en bout, c'est-à-dire build, own, operate, transfer, c'est-à-dire qui consiste à faire financer, pour faire financer ça par un opérateur privé qui va se récupérer en vendant de l'énergie. Mmh. Donc ça, c'est toujours possible pour la production de l'électricité elle-même. Mais par contre, pour transporter et distribuer l'électricité, ça c'est un peu plus compliqué de faire ça par les opérateurs privés.
Et justement, parlant de cette électricité, aujourd'hui, selon vous, les réseaux électriques africains sont-ils techniquement prêts à intégrer massivement le solaire et l'éolien intermittent?
Déjà, l'intermittence aujourd'hui, quand on a la chance d'être dans une période où l'explosion de la demande en voiture électrique a fait exploser la demande en batterie. Cette explosion en demande en batterie a fait que, avec les courbes qu'on appelle les courbes d'apprentissage, les coûts du stockage sur batterie ont tellement baissé que, en fait, le mélange solaire plus batterie coûte aujourd'hui moins cher. L'électricité produite par ces deux-là coûte moins cher que, par exemple, des turbines à gaz. Le problème, c'est que les turbines à gaz, on paye la génératrice pas trop cher, et puis après on paye du gaz ou du fuel cher, alors que pour le solaire et les batteries, il faut investir à l'avance, donc il faut c'est toujours un problème de capital et de retour sur investissement, c'est toujours le même problème. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, l'Allemagne a ouvert des appels d'offres dans le courant de l'année 2005, dans lesquels il y a des systèmes qui ont été livrés, et le prix de l'électricité vendue se situe solaire plus batterie se situe autour de 70 de nos centimes, c'est-à-dire 0,7 dirhams, ce qui est quand même excellent pour être en Allemagne, vu le coût de l'électricité solaire en elle-même. Mmh. Donc voilà de très bonnes opportunités pour l'Afrique. Et puis, ma foi, le gaz, si l'Afrique n'avait pas de gaz, alors on aurait été contraint de sauter directement vers les renouvelables. Mais pour épargner les investissements trop lourds pour l'instant, la transition par le gaz est peut-être une bonne solution, d'autant plus que le gaz, nous pouvons le mutualiser, comme vous le savez, avec le gazoduc Nigeria-Maroc qui va permettre à certains de vendre leur gaz naturel à leurs voisins et à d'autres de pouvoir se fournir en gaz naturel de chez leurs voisins.
Et justement, se fournir en gaz naturel, c'est leur voisin, c'est aussi, bien évidemment, est une évolution. Et dans cette même évolution, aujourd'hui, quel modèle énergétique est le plus adapté, selon vous, au continent, entre les grands réseaux centralisés ou les solutions décentralisées, comme les mini-réseaux solaires ?
Les mini-réseaux sont toujours idéaux dans la théorie. La réalité, c'est que plus c'est petit, plus on est obligé de surdimensionner un réseau parce que il y a un concept qui est celui du foisonnement. C'est-à-dire, le foisonnement, c'est lorsque moi je consomme, il n'est pas nécessaire que mon voisin consomme à la même heure la même quantité d'électricité. Alors quand on n'est que 2 ou 10, c'est difficile d'avoir ce genre de choses. Mais quand on est 1000, ça devient un peu plus possible. Et donc, à cause de ce problème de manque de foisonnement, quand le nombre n'y est pas, on est obligé de mettre des installations dont la puissance est surdimensionnée et du coup, ça coûte plus cher. Et les solutions centralisées, elles ont un inconvénient qui est celui qu'il faut amener les câbles jusqu'à la localité. Alors, la meilleure façon probablement de faire cela, c'est de faire ce qu'a fait le Maroc, c'est-à-dire de planifier, de ne pas faire au coup par coup, faire un village et d'attendre, et une fois qu'on a fait le premier, qu'est-ce qu'on va faire dans le deuxième ? C'est de planifier, de cartographier, de décider par où va passer le réseau, quels sont les endroits prioritaires, quels sont les villes ou les villages qui vont coûter le moins cher à desservir et qu'on dessert en premier, qui vont donner des revenus, qui vont permettre à cette électrification rurale de se préserver financièrement parlant. Je pense que le PERG du Maroc est réellement une expérience à reprendre un peu partout en Afrique. Il faut bien se rappeler que le Maroc avait un taux d'électrification rurale de 18% en 1996. D'ailleurs, en 1994, la Banque mondiale avait fait un rapport qui nous avait mis à l'index à propos de tous les déficits d'investissements infrastructuraux au Maroc. Et en 96, on était à 18%. En 10 ans après, on frisait les 100%. 10 ans, c'est peut-être beaucoup, mais il faut ça pour... Il faut laisser le temps au temps, comme disait quelqu'un. Voilà. Mais encore faut-il commencer et que les courbes qui permettent de voir l'évolution dans le temps de ce genre de choses, décolle, parce que si ça ne décolle pas, on n'y est pas.
Laissez le temps au temps, et justement, par rapport à ce temps, nous allons prendre un peu de temps pour écouter avec vous, M. Benoula, la minute donc RSE, pour revenir aujourd'hui sur l'actualité par rapport à cette semaine, et c'est tout de suite.
Bienvenue dans votre Minute RSE. En mai 2026, une tendance se confirme. La RSE entre dans une phase plus concrète, moins de grands discours, plus de résultats mesurables. En Europe, les discussions autour des normes ESG et de la directive CSRD poussent les entreprises à revoir leurs priorités. L'objectif désormais est de prouver l'impact réel des engagements environnementaux et sociaux. Autre évolution majeure, l'intelligence artificielle s'impose comme un nouvel allié de la transition durable. durable. De plus en plus d'entreprises utilisent l'IA pour suivre leurs émissions carbone, limiter le gaspillage énergétique ou encore optimiser leur chaîne logistique. Et justement, le sujet qui domine cette année reste le Scope 3, ces émissions indirectes liées aux fournisseurs et aux partenaires. Un enjeu clé puisqu'elles peuvent représenter jusqu'à 80% de l'empreinte carbone totale d'une entreprise. Enfin, partout dans le monde, les initiatives se multiplient entre forums ESG, sommet climat et nouveaux financements accélèrent les projets liés à l'économie circulaire, à l'énergie propre et à la biodiversité.
De retour avec notre invité, M. Amine Benouna, donc je rappelle qu'il est spécialiste dans le domaine énergétique. Alors, aujourd'hui, M. Benouna, l'Afrique peut-elle devenir un acteur majeur de l'hydrogène vert ou risque-t-elle de rester un simple fournisseur de ressources énergétiques ?
L'hydrogène vert, bon, d'abord, il faut bien distinguer deux choses. Hein. Dans l'immédiat, l'hydrogène vert sera, comme c'est le cas pour le Maroc, ça sera très vite pour le cas dans le Maroc, dans les 4 ou 5 prochaines années, c'est déjà de l'hydrogène vert à usage industriel qui est utilisé dans l'industrie des fertilisants, dans l'industrie et dans les industries pétrochimiques et de mémoire et dans la métallurgie. À part cela, je pense que pour l'instant, la production d'hydrogène vert a besoin de se massifier, c'est-à-dire d'augmenter en quantité pour que les prix puissent baisser et enfin que l'on puisse enfin se payer le luxe, entre guillemets, de brûler de l'hydrogène pour produire de l'électricité ou du mouvement, d'ailleurs. Et donc, je pense que ce ne sera pas avant dans au moins 10 ans. Et à ce titre, l'Afrique, beaucoup de pays d'Afrique sont très bien positionnés parce que, tout au moins, ceux qui ont l'eau, il faut se rappeler qu'il faut en extraire l'hydrogène de l'eau. Ceux qui ont de l'eau, notamment de l'eau d'océan, parce qu'il faut que ça ne vaut pas la peine d'aller prendre de l'eau douce pour ça, et qui ont du soleil, et c'est le cas de beaucoup, beaucoup des 50 pays d'Afrique, de produire de l'hydrogène vert. Et dès que les coûts de production vont baisser, grâce à certains pays pionniers qui vont se lancer à l'eau avant les autres, eh bien les coûts vont baisser progressivement jusqu'à atteindre probablement $1 le kilogramme entre 2035 et 2040, probablement, si la demande augmente de plus de 10% par an.
Justement. Et
nous, voilà.
Oui, donc justement aujourd'hui, la dernière question que j'aimerais vous poser, Monsieur Benouna, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce G20, par rapport aussi à la responsabilité sociétale des entreprises, notamment la question aussi africaine, ces engagements climatiques des pays du G20 prennent-ils aujourd'hui réellement en compte les besoins de développement et d'industrialisation de l'Afrique ?
Oh, je crois que ce n'est pas vraiment. C'est une opinion personnelle, là, non pas d'expert, c'est une opinion de citoyen. Je pense que c'est un petit peu le cas des leurs soucis, parce que quand je vois le nombre de promesses pour faire face à l'adaptation au changement climatique qui ont été faites dans toutes les COP successives, et quand je vois ce qui a été effectivement débloqué, il n'y a pas de quoi penser que les choses sont là. Maintenant, il y a aussi un fait, c'est que toute l'Afrique, ce n'est que 4% des émissions mondiales, et si on doit faire une lutte de réchauffement contre le réchauffement climatique efficace, on commence par la faire dans les pays qui émettent le plus. L'Afrique est de très loin, ce n'est pas un pays, c'est un continent qui représente 1/8 de la population et qui ne représente que 1/25 des émissions globales. Je pense qu'on viendra s'intéresser vraiment aux émissions de l'Afrique lorsque la Chine, l'Inde et les États-Unis auront substantiellement baissé, l'Europe aussi un peu, mais c'est surtout ces trois-là qui sont en tête aujourd'hui. Lorsque ceux-là auront baissé substantiellement leurs émissions, alors on viendra s'intéresser peut-être aux émissions de l'Afrique pour contribuer à baisser.
Tout à fait.
Dire que on fait des efforts pour baisser les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique au Maroc, Bon, c'est bien de le dire, ça fait plaisir, on se fait plaisir, mais en réalité, notre impact est tellement minime que voilà. Lorsqu'on utilise l'énergie renouvelable, solaire, éolien, hydraulique, eh bien, d'abord, on utilise des ressources locales et on acquiert une indépendance à l'égard de ce qui se passe à l'international. Je viens de parcourir un graphique là, dans lequel il y a un agrégat marocain qui prend des pointes, qui augmente de façon sporadique de temps en temps. C'est le coût moyen des imports nets d'énergie. Eh bien, chaque fois qu'il augmente, ça a coïncidé avec un conflit international. Ça a été le cas en 2008, en 2012, en 2014. En 2018, en 2022 et 2026, on n'a pas encore les chiffres, mais ça va être le cas.
Et en attendant, d'ailleurs, à quelques mois du prochain G20, une certitude se dégage. L'Afrique devra défendre une vision énergétique capable de répondre à ses besoins de développement tout en participant à l'effort climatique mondial entre transition énergétique, financement et responsabilité des acteurs économiques. Les décisions prises aujourd'hui donc auront un impact sûrement majeur sur le continent de demain. Amine Benouna, merci encore pour ces éclairages qui ont été précieux dans cette émission Planète Business.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Bonne soirée à tous les auditeurs.
Et mais également merci également à vous, chers amis auditeurs, de votre fidélité à Planète Business et à très bientôt pour une nouvelle émission.